Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Merci déjà pour tout. Jean-Luc aussi avec ta famille pour l'accueil chaleureux. Merci. Alors, chers frères et sœurs, le commandement de Dieu n'est pas difficile. Il y a des siècles, Moïse, le grand chef d'Israël, a dit cela. Et c'est toujours une parole vraie. Moïse a dit, le commandement de Dieu n'est pas hors l'atteinte, pas besoin de monter au ciel pour le chercher et le faire entendre, pas besoin de passer outre-mer pour le chercher et le faire entendre. Non. Le commandement de Dieu est tout proche de vous, il a dit. Il se trouve dans votre bouche et dans votre cœur. Voilà, le commandement de Dieu est proche. Et il n'est pas difficile non plus. Non, en fait, il est très facile. Il est peut-être tellement facile que nous passons sur lui en lisant et en écoutant, comme une porte étroite que peu ne puissent trouver. Mais il est quand même proche, comme nous avons aussi lu dans Romains, le chapitre 10, il est proche et il n'est pas difficile. Afin de comprendre combien le commandement de Dieu est facile, nous allons voyager en arrière 2000 ans, pour aller dans la grande ville de Rome, la capitale de l'Empire. C'est l'époque des empereurs Caligula et Claude et Néron. Et bientôt, la persécution des chrétiens commencera. La persécution de cette secte juive, ce que les Romains pensent, hein, une secte juive difficile, dont les membres ne veulent pas se prosterner devant l'empereur, en confessant que César est Karios, Kurios, c'est-à-dire que l'empereur est le Seigneur. Les chrétiens refusent de le vénérer ainsi. Au sein de cet puissant empire romain, donc, dans sa capitale, Rome, il se trouve aussi une petite communauté chrétienne. Et en quelque sorte, cette petite église vit dans l'ombre d'une autre grande institution religieuse, notamment la synagogue des Juifs, qui s'y trouve déjà depuis plusieurs siècles, qui précède donc l'église chrétienne de Rome. Pour les Romains, l'église chrétienne était même une dénomination de la synagogue, comme je vous ai déjà dit. Alors, évidemment, ce n'était pas comme ça, hein, vous le savez. Mais pourtant, sous un autre aspect, c'est vrai que cette petite église chrétienne avait ses racines dans la religion juive. Elle était aussi provenue de la Terre Sainte et elle dirait même qu'elle est l'accomplissement de la foi juive. Et quand même, il y a bien deux institutions toutes différentes, l'Église et la synagogue, essayant toutes deux de se maintenir contre l'oppression croissante des Romains. Alors, c'est à cette époque mouvementée que l'apôtre Paul écrit à cette Église de Rome, qui se trouve donc dans l'ombre de la synagogue. Et dans ce chapitre que nous avons lu, Paul leur écrit: Frères et sœurs, ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas effrayés par la grandeur de cette synagogue des Juifs. Non, il dit, la pratique religieuse de ces Juifs-là, c'est un zèle que n'éclaire pas la connaissance. Évidemment, Paul ne parle pas de tous les Juifs, hein? C'est pas qu'il est contre les Juifs, parce que vous savez qu'il est lui-même un Juif, lui aussi. Non, il s'agit clairement des Juifs qui donc adhèrent à la synagogue. Et Paul déclare que ces gens-là manquent de connaissances. Ils disent, par exemple, que pour un homme bien, il faut avoir été circoncis. En plus, il faut garder scrupuleusement les lois du sabbat. On n'a par exemple pas le droit de marcher plus de 875 pas le jour du sabbat. Hein? Donc 875 pas. Je sais qu'il y en a parmi vous peut-être qui ont un truc, un bracelet qui peut compter les pas, journalier. Donc là, vous pouvez tenir le compte. Pas plus que 875 pour les Juifs. On n'a même pas le droit de créer quelque chose. On n'a pas le droit d'allumer du feu. Et tous les jours, il faut veiller à ce qu'on ne mange rien d'impur. Il faut garder sa cuisine cachère, séparer les produits de viande et les produits laitiers. Les Juifs d'aujourd'hui, ils ont deux frigos, hein, donc un frigo pour la viande et un frigo pour tout ce qui est laitier. Il faut célébrer toutes les journées saintes. Et en tout cela, pour résumer, il faut démontrer son identité juive. On doit vraiment faire de son mieux, scrupuleusement, pour être considéré comme un juste. Il faut faire tout ça pour être accepté par la communauté. Et bien sûr, aussi être accepté par l'Éternel lui-même. C'est comme ça que vivent les Juifs de la grande synagogue de Rome, à cette époque-là, à côté de la petite église chrétienne. Alors, entre l'église chrétienne et la synagogue, il y a des échanges, bien sûr. D'autant plus que dans l'église, il y a certaines personnes qui autrefois appartenaient à la synagogue, mais qui se sont convertis vers le Christ. Ils se connaissent donc bien, les chrétiens et les juifs. Et alors, il y a certains chrétiens dans l'Église qui se demandent si ces juifs de la synagogue n'auraient peut-être pas raison. Est-ce qu'il faut quand même être circoncis? Est-ce qu'il faut quand même manger caché? Est-ce que nous vivons peut-être dans la désobéissance envers le Seigneur si nous ne pratiquons pas toutes ces choses? Est-ce que le Seigneur pourra bien nous bénir puisque nous ne respectons pas cette tradition? Voilà des doutes dans l'Église chrétienne de Rome. Et cela ne se joue pas que dans l'Église de Rome, mais on peut le sonder un peu quand on lit tous les épîtres de l'apôtre Paul. Toujours il y a cette tension avec le monde juif dont ils sont provenus. Et l'apôtre Paul, bien sûr, il connaît très bien ce monde juif, hein. Il est élevé dedans. Et alors, il va écrire aux chrétiens de Rome, ces gens-là, ils essaient d'établir leur propre justice. Ils parlent donc de leur propre justice. C'est quoi exactement sa propre justice? Eh bien, je pense qu'on peut la comparer à un bâtiment qu'on cherche d'établir. Chaque loi à laquelle ils obéissent, chaque bonne œuvre qu'ils pratiquent, c'est comme une pierre dans ce bâtiment. Et pierre par pierre, ils se construisent un bâtiment à eux. Ils établissent une justice pour plaire à l'Éternel. Car devant l'Éternel, il faut être juste, n'est-ce pas? Alors, voilà le mode de vie judaïste. On se construit sa propre justice devant l'Éternel. Mais les Juifs, vous le savez peut-être, ils ne sont pas les seuls à établir leur propre justice. Quand nous passons à l'époque actuelle, nous pourrions dire que toutes les religions du monde entier sont comme ça. Chaque conception de vie, chaque philosophie, chaque religion, elles sont toutes fondées sur le principe qu'il faut établir une sorte de monument de justice, en faisant plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Selon l'islam, par exemple, il y a deux anges qui tiennent le score pour vous. Hein? Il y a un ange ici, sur cette épaule, et un ange ici. Et l'un ange compte donc les bonnes choses, et l'autre compte les mauvaises choses. C'est vrai que les lois de toutes les religions ne sont pas toutes pareilles, hein, c'est sûr. Mais l'essentiel dans chacune d'entre elles, c'est qu'il faut faire de son mieux pour être juste. Et malheureusement, de nos jours, c'est aussi le message principal qu'on entend dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui. On entend surtout qu'il faut changer sa vie, qu'il faut faire le bien, qu'il faut s'engager pour l'environnement, peut-être. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si on entend ça tous les dimanches dans l'église, est-ce que c'est là le message chrétien? S'engager pour l'environnement, s'engager contre la discrimination, voilà le contenu des prédications dans l'Église chrétienne contemporaine. Alors Paul dit, pour revenir donc à ses paroles, que c'est du zèle, oui, c'est bien du zèle, et c'est pas négatif d'avoir du zèle, mais c'est du zèle sans connaissance. Après avoir dit tout cela, on en arrive maintenant au point essentiel. Le commandement de Dieu n'est pas si difficile que ça, comme on a déjà entendu dans l'introduction. Le commandement de Dieu est facile. Dans le verset 8, l'apôtre Paul dit: Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, qu'est-ce qui pourrait être plus proche que ça? Hein, la bouche et le cœur, c'est tout près, n'est-ce pas? Le commandement de Dieu n'est pas que je dois monter au ciel, ni de descendre dans l'abîme, il écrit. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de monter, de vraiment construire une cathédrale de mes propres bonnes œuvres, ni de descendre dans l'abîme de mes propres sentiments religieux. Ce n'est pas moi qui dois s'efforcer à établir ma propre justice. Ce n'est pas moi qui dois se soucier de ma propre sainteté. Vous ne trouvez pas que ce serait d'ailleurs un style de vie assez égocentrique, non? Dieu ne nous a pas demandé de nous efforcer nous-mêmes. Son commandement est très proche. Est très très simple. Tout ce qu'il demande de nous, il dit, c'est la parole de la foi. La parole de la foi. À la fin du verset 8, c'est écrit. La parole de la foi, c'est tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi la bouche et le cœur suffisent, hein, pour dire la parole de foi. Bien sûr, nous avons besoin de savoir ce que c'est exactement cette parole de foi. Ce n'est pas une parole quelconque. Ce n'est pas, par exemple, de dire « J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis un chrétien. Je suivrai le Christ. Est-ce que c'est ça les paroles de foi? Ce qui me frappe dans toutes ces phrases qu'on dit souvent quand même hein, dans le milieu chrétien, c'est que le sujet est toujours à la première personne. Je fais ceci, je fais cela. Si notre foi se concentre toujours sur le moi, sur la première personne, nous ne sommes pas différents de ces judaïstes de la synagogue, ni de tous les autres hommes et femmes religieux dans le monde. La parole de foi ne s'agit pas du moi. Non. La parole de foi, frères et sœurs, la parole de foi que l'Éternel Dieu demande de nous est tellement merveilleuse. C'est une parole qui demande de nous, bien entendu, mais d'autre part, c'est une parole qu'il a déjà donnée lui-même. Car Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Vous connaissez ce proverbe? Dieu donne ce qu'il ordonne. Il donne ce qu'il ordonne. Rappelez ça. La parole de foi, c'est une parole qu'il nous a déjà donnée. Et c'est une parole qui est à la troisième personne, notamment Jésus est le Seigneur. Voilà la parole de foi. C'est tout ce qu'il nous faut. Jésus est le Seigneur. Confessez cette parole de vos bouches, il dit. Jésus le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ce n'est pas trop difficile, hein? Je vous avais promis que ce n'était pas trop compliqué. Mais vous savez qu'il y a un seul Dieu, hein? Presque tout le monde le croit, dans le monde entier. Hein? Presque tout le monde croit qu'il y a eu un créateur. Presque tout le monde, hein? Pas tous. Il y a les athéistes purs et durs qui croient que tout a commencé pouf, comme ça. Mais donc, je parle pour la plupart de la population sur la Terre. Un seul Dieu, le Créateur. Et vous savez qu'il est aussi tout-puissant. Il peut tout. Et il est partout. Il est toujours quelqu'un qui s'occupe de sa création. Alors, bonjour. Asseyez-vous, monsieur. On était en train de parler du Dieu Tout-Puissant, hein, un Dieu qui est le créateur de l'univers. Alors, un jour, ce Dieu Tout-Puissant est venu lui-même dans le monde. Pas comme un esprit, pas comme un ange, pas comme un feu. Mais non, ce jour-là, il y a 2000 ans, le Dieu Tout-Puissant est né ici, dans la forme d'un homme. Cet homme était toujours le Seigneur. Dieu reste, bien sûr, il reste le Seigneur, mais il est venu dans la forme d'un homme. Et il s'appelait Jésus. Jésus était un homme de chair et d'os, mais c'était toujours Dieu. Dieu dans le corps d'un homme. Et cet homme qui était donc Dieu, c'était Jésus. Et c'est justement pour cette raison-là, frères et sœurs, que nous confessons que Jésus est le Seigneur. Parce que par cette parole de foi, nous attestons la divinité de Jésus. Tout comme l'apôtre Thomas lui a dit, Mon Seigneur et mon Dieu. Voici la parole de foi de Thomas. Et voici la parole qu'il nous faut aussi. Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu. C'est par ça que tout commence. Dans la religion chrétienne et dans notre relation avec le Seigneur. Parce que Nous n'avons pas une religion, frères et sœurs. Nous avons une relation avec Dieu. Mais ça commence par la confession que Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu. Et Paul ajoute encore une autre chose, et c'est par cela que nous allons terminer ce message. Premièrement donc, par la bouche, on confesse que Jésus est le Seigneur. Et secondement, il dit, dans son cœur, on croit que Dieu l'a ressuscité des morts. Cette phrase étonnante nous montre que le Seigneur Jésus a été mort pour un certain temps. C'est là la chose la plus incroyable dans le monde entier, frères et sœurs, notamment que Dieu, le Seigneur, s'est soumis à la mort. C'est la dernière chose à laquelle nous étions attendus, n'est-ce pas? Un Dieu qui se soumet à la mort. Un Dieu qui se fait frapper par les hommes. Un Dieu qui se fait clouer sur la croix afin de mourir, tué par nous autres hommes. C'est incroyable. Et nous ne pourrons jamais le saisir par notre intelligence. Mais en tout cas, Paul dit, le troisième jour, il est ressuscité, comme pour montrer qu'il avait dit la vérité sur lui-même. Il était bien le Je suis, le Sauveur, le commencement et la fin. Il était bien l'Éternel. Ce sont des choses que Jésus a dit à propos de lui-même. Et là, ce troisième jour, quand il est ressuscité, il a montré que c'était vrai ce qu'il a dit. Et qu'il avait bien sacrifié sa vie pour nos péchés. Sa résurrection d'entre les morts était la preuve de la vérité de ses actions et de ses paroles. Pour conclure, Jésus est le Seigneur. Je répète encore une fois, parce que c'est tout ce dont nous avons besoin de croire. Si vous croyez cette parole, cela suffit pour Dieu. Ça suffit. Je sais qu'il y a bien des choses dans la vie qui ne sont pas encore résolues. On est toujours ici, on porte toujours avec nous nos fardeaux. Et quand même de dire et de croire que Jésus est le Seigneur, ça suffit. Parce que le Seigneur Jésus nous connaît. Et il sait que nous avons de bonnes intentions, que nous voulons bien faire sa volonté et que nous n'y arrivions pas par nos propres efforts, que nous faisons des péchés. Il nous connaît et il sait toutes ces choses. Alors, réjouissez-vous, frères et sœurs, parce qu'il est devenu homme. Et en tant qu'homme, il a lui-même mené une vie sans péché, une vie parfaite. Et en plus, il a payé le prix pour nos péchés à nous, à notre place. Et il nous a donné son Esprit Saint pour nous aider dans nos vies. Il a payé le prix pour nous, le Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons célébrer pendant la Sainte Cène. Jésus est le Seigneur. Il est mort pour nos péchés à notre place et il est ressuscité pour montrer au monde qu'il est vraiment le Seigneur. Alors, croyez en lui et vous ne serez jamais confondus. Amen.